C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social média servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné de mon fidèle Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, comment ça va ?
Ça va bien. Est-ce que ça va dans ton petit confinement croix-roussien ? Tout se passe
oui,
bien ?
Oui, ça va. Bon, tu sais, la Croix-Rousse, c'est franchement pas les. On n'est pas les plus respectueux du confinement dans ce quartier.
Ouh là là ! Ouh là là ! On fait directement.
mais on ne va pas lancer personne, ça va.
Allez, petite veille social media, qu'est-ce que tu as de beau dans ta blouse ?
Yes. Bah, moi, je voulais commencer d'abord par, pour moi, l'image du week-end, rapidement, mais en fait, hier soir, il s'est passé un événement assez fou dans le monde du sport qui a fait le tour des réseaux sociaux du monde. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est un Français en Formule 1, Romain Grosjean, qui a eu un accrochage et qui est sorti de la route et qui a percuté une barrière de sécurité. Sa voiture a pris feu. Il a passé 28 secondes dans le feu avant de sortir de là. Et en fait, c'est fou comme les réseaux sociaux sont une caisse de résonance quand il se passe des choses comme ça, parce que tout simplement, moi, j'ai vu cette image passer de partout, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter. C'est vraiment l'image qui a fait le tour des réseaux sociaux et au niveau mondial, parce que la Formule 1 est un sport qui est suivi mondialement. Donc voilà, je voulais juste dire un mot là-dessus parce que c'était vraiment énorme comme événement.
Après, il faut dire que le barbecue était spectaculaire. Hein.
Ah, c'était fou. C'est un miraculé.
Voilà, donc ok, ça c'était la news de ce matin.
C'était ma petite image du week-end, j'avais envie d'en parler rapidement.
Vous savez, il est très très branché sport, y compris sport auto, notre ami Adjane. Écoute, moi je vais parler d'Instagram cette fois-ci. Instagram qui teste une nouvelle fonctionnalité de FAQ dans les direct messages pour les comptes pro. Je vous explique tout ça. Il semble que les marques vont pouvoir définir désormais 4 questions qui seront affichées dans votre toute première interaction via la messagerie privée d'Instagram. En gros, je prends contact avec une marque via Instagram et la première fois que je vais me connecter en Instagram direct message à cette marque, je vais avoir 4 questions types qui vont m'être posées du style quels sont vos horaires d'ouverture, quel est le prix de tel produit, etc. etc. En gros, l'intérêt pour les marques, hein, c'est d'augmenter encore davantage le conversationnel en messagerie privée et puis d'offrir pour les marques un moyen simple et automatisé de répondre aux questions les plus courantes. Finalement, ça ressemble beaucoup à ce qui existe déjà du côté de Facebook et Messenger. Mais tu sais, quand tu rattaches ton Messenger à ta page Facebook et que tu as la possibilité, là aussi, d'avoir le début d'une conversation avec un certain nombre de questions déjà ouvertes. Et ben là, c'est la même chose dans Instagram. Alors, rien de très surprenant parce qu'on en a déjà parlé ici au micro du Super Daily. Il y a évidemment cet énorme projet Facebook, du groupe Facebook, de rapprocher ces différents systèmes de messagerie et y compris Messenger et son système de chat de Instagram Direct Message. Donc voilà, intéressant. Voilà, c'est à venir. Je vous mets un screen capture pour que vous voyez à quoi ça ressemble tout ça. Je vous le mets en note de cet épisode. C'est pas encore lancé. Ça devrait plus tarder.
Voilà. Ouais, c'est un petit chatbot, quoi.
Une sorte de micro de chatbot, ouais, voilà. Bon, à voir ce que ça donne, hein, parce que ces interactions-là, elles ont un côté un peu pré-mâché qui est pas forcément passionnant, mais côté conso, ça permet parfois de gagner du temps. Hein, au lieu de taper ton message, voilà, ouais. Un petit truc qui te dit c'est quoi vos horaires, bon, tu cliques là, et puis t'as quelqu'un qui te répond. À voir, je sais pas, à voir à l'usage.
Mais intéressant. Moi, je vais vous parler de Spotlight sur Snapchat. On peut dire que depuis le début de l'année 2020, TikTok influence quand même beaucoup les autres plateformes. Et on avait déjà vu Instagram qui avait lancé la fonctionnalité le format Reels. Maintenant, c'est Snapchat qui lance une fonctionnalité qui peut un petit peu ressembler à tout ça, qui s'appelle Spotlight. Quand on parle de contenu de même format, attention, hein, parce que Snapchat, c'est quand même largement un précurseur du format vertical vidéo. Mais là, il y a quelque chose de nouveau dans dans le déploiement qu'ils font de leur fonctionnalité musicale. Le principe de Spotlight, c'est très simple. C'est un nouvel endroit dans l'application Snapchat qui va réunir les meilleurs snaps de la plateforme. Et on peut retrouver n'importe qui, n'importe quel utilisateur à cet endroit. Donc, on retrouvera les snaps les plus populaires c'est comme ça qu'ils seront choisis en fonction de l'engagement qu'il y aura dessus, de la visibilité, du temps de lecture. Et ils peuvent être réalisés, je disais, par des créateurs de contenu, mais aussi par de simples utilisateurs. À la différence de l'application chinoise TikTok, par contre, Snapchat diffuse sur Spotlight tous les snaps et du coup des snaps privés aussi, mais qui seront pas ouverts aux commentaires publics. Et donc, en gros, quelqu'un qui aura un compte privé, il pourra soumettre ses snaps à la fonctionnalité Spotlight. Et Spotlight va réunir, du coup, c'est un endroit dans la plateforme, pour faire simple, qui va réunir tous les meilleurs snaps, ceux qui fonctionnent le mieux sur la plateforme. Alors, okay, attention.
Intéressant, ouais. Une espèce de best-of de snap, quoi.
C'est ça, voilà. Et il y a une petite cerise sur le gâteau, puisque pour que les utilisateurs et créateurs de contenu participent et partagent leurs snaps sur Spotlight, Snapchat s'engage à verser plus $1 million par jour jusqu'à la fin de l'année 2020 à ceux qui auront les créations les plus virales. Donc ça sera à partager, hein, entre les différents snaps qui fonctionnent le plus chaque jour, mais c'est une énorme dotation. Et là, on peut lire quelque chose d'assez simple, hein, c'est que Snapchat veut récupérer les meilleurs créateurs de contenu sur sa plateforme, alors que actuellement on sait, TikTok remporte quand même bien les suffrages au niveau des créateurs de contenu, puisque c'est la plateforme qui permet d'avoir le plus rapidement une grosse communauté, de l'engagement, de la visibilité et peut-être d'avoir des partenariats avec des marques. Là, Snapchat, c'est de reprendre un petit peu la main sur les créateurs de contenu et du coup, ils posent $1 million chaque jour pour les créateurs de contenu. Donc, cette fonctionnalité, elle est maintenant disponible dans déjà pas mal de pays. On la retrouve aux États-Unis, au Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Suède, Danemark et puis bien sûr Allemagne et France. Donc, si vous mettez à jour votre Snapchat, vous devrez trouver ce nouvel endroit de la plateforme qui va réunir tous les meilleurs snaps. Voilà.
Baston en ce moment autour des créateurs de contenu.
Hein. C'est fou,
impressionnant, hein. Et je trouve que ça nous rappelle quelque chose, que c'est ceux qui créent le contenu qui ont les clés du coffre-fort, je trouve. C'est pas mal. Forme finalement, hein, qui décide. Et les plateformes aujourd'hui, elles sont à la baston pour récupérer les meilleurs créateurs de contenu. Très très intéressant.
En fait, plus il y a de plateformes en concurrence, plus les créateurs de contenu ils sont importants et ils ont le choix de pouvoir travailler sur telle ou telle plateforme.
En fait, c'est eux qui ont les audiences, hein, c'est pas les plateformes.
Ah oui.
Donc, à partir de là, ouais, très intéressant. Peut-être un jour verra-t-on la même baston pour les marques. Hein, tu vois, des plateformes prêtes à payer certaines marques à fort engagement parce qu'il y a des marques qui sont créatrices de contenu aussi. C'est intéressant tout ça. Allez, moi, je vais parler de Facebook. Facebook qui sort une nouvelle application expérimentale aux États-Unis. On en avait déjà parlé, hein, au micro du Super Daily. Facebook dispose d'une petite armée de développeurs et de designers dont le travail, c'est de concevoir des applications social media expérimental. Cette division, c'est une sorte de division fringe un peu, hein. Elle est aussi appelée le NPE. Ça fait très, très américain.
C'est bien une blague.
Ouais, un petit peu. Et donc, ce groupe de recherche, leur mission, hein, c'est de concevoir des applications social media. Et ils ont quasiment un droit à l'échec, hein, qui leur a été donné par le groupe Facebook et par Mark Zuckerberg. Parce que l'objectif de ce groupe de recherche et développement de Facebook, eh bien, c'est tout simplement peut-être d'inventer le social media de demain, en tout cas essayer de faire de la recherche expérimentale sur des nouveaux formats. Qu'est-ce qui peut marcher? Alors, la semaine dernière, ce groupe de recherche et développement a annoncé la sortie d'une toute nouvelle expérimentation qui s'appelle Egg. Egg comme E, voilà, bon.
Ok.
C'est un peu étrange. Mais Egg, c'est une application social media qui permet aux utilisateurs de créer des collages. Alors, ça a l'air assez banal comme ça. Mais Egg te permet d'organiser des images, des gifs, des formes, du texte, etc. Tout ça dans des sortes de mood board, format 9/16. Bon, une espèce de gros collage comme ça. On se dit, c'est pas très révolutionnaire. Mais c'est vachement intéressant, je trouve, l'approche. Alors, je vous mets le lien direct vers le communiqué de presse officiel de Facebook qui annonce la sortie de Egg. Ils expliquent que Egg a été inspiré par l'esprit brut et exploratoire des débuts d'Internet, les fameux gifs clignotants, les livres d'or bariolés de l'époque, les pages web perso clignotantes, un peu MySpace dans l'esprit. Ils expliquent, hein, à l'époque, vous pouviez facilement créer des pages qui vous représentaient de manière unique. Il y avait quelque chose dans cette atmosphère qui était un peu étrange et merveilleux. Je trouve ça, oui, c'est vrai, ils ont raison sur ce point. Et on a perdu un petit peu tout ça, hein, dans le web d'aujourd'hui et dans le web social notamment, où tout finalement est assez bordé, assez clean, et eux, ils arrivent avec quelque chose d'un peu trash dans leur proposition, Egg. Voilà, donc sorti aujourd'hui aux États-Unis, hein, pas encore en France, j'ai essayé de l'installer, ça n'est pas disponible. Donc, nouveau produit de ce groupe.
La maison Facebook.
Exactement, de ce groupe NPE qui a sorti pas moins de 10 applications expérimentales. Honnêtement, aucune n'a réellement décollé. Encore une fois, l'enjeu, il se situe ailleurs pour Mark Zuckerberg. L'équipe NPE essaye essentiellement de prendre une sorte de longueur d'avance sur la prochaine grande tendance social media. Et pour ça, ils utilisent des informations internes qui sont glanées sur les plateformes Facebook, Instagram actuelles du groupe Facebook. Hein. Quels sont les usages des internautes? Qu'est-ce qui est en train de se produire et comment on peut chercher à transformer tout ça en nouvelles applications. Du coup, c'est intéressant de regarder ce qui se passe du côté de NPE. Il est vraisemblable que toutes les applications, la dizaine d'applications qu'ils ont sorties, soient amenées à finir à la poubelle un jour ou l'autre. Mais par contre, elles posent les bases d'une recherche qu'on retrouvera sans doute, peut-être, un jour dans Instagram ou dans Facebook.
Oui, puis j'imagine que dans ce qu'ils jettent à la poubelle, il y a des choses qui doivent être même un petit peu récupérées, recyclées à l'intérieur de Facebook. Il y a peut-être des technologies qu'ils inventent sur certaines applications qui montent, qui sont récupérés ensuite pour Instagram, pour Facebook, qui viennent nourrir des plateformes plus grosses, plus importantes.
C'est exactement ça.
Moi, je voulais vous parler ce matin aussi de Twitter et des comptes certifiés. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais à la fin de l'année 2017, Twitter avait suspendu son programme de certification et de vérification des comptes.
Ça, c'était l'affaire du siècle, quasiment.
Ah oui, il y avait une polémique qui avait éclaté avec des comptes d'extrême droite et de suprémacistes blancs qui avaient été certifiés. Donc, le but de la certification était de permettre d'assurer à la base l'authenticité d'un compte d'intérêt public. Alors aujourd'hui, figure-toi, Twitter compte remettre les certifications à jour et sa procédure en route. Donc Twitter s'apprête à relancer son programme.
C'est une grosse news, hein, parce qu'ils sont nombreux là à poireauter en disant « mais c'est pas possible, pourquoi je suis pas certifié ?» J'ai une pensée, excuse-moi, une pensée pour les équipes d'Only Lyon qui se battent pour certifier le compte Only Lyon qui est clairement d'utilité publique et qui n'y parviennent pas.
Ouais, c'est clair. Et Twitter a déclaré hein, que bah voilà, ça y est, ça allait arriver. Il prévoit de relancer la vérification, y compris un nouveau processus de demande publique au début de 2021. Mais d'abord, ils veulent mettre à jour leur politique de vérification avec l'aide des utilisateurs. Donc, les utilisateurs auront aussi un rôle à jouer. La plateforme Twitter a décidé d'identifier si des types de comptes susceptibles de pouvoir être certifiés pouvaient l'être. On retrouve d'abord dans les possibles comptes à certifier tous les comptes un peu gouvernementaux, donc les personnes qui font partie du gouvernement, les entités institutionnelles ou même les ambassadeurs ou encore porte-parole. Il y a des entreprises, des marques et des organisations aussi qui peuvent avoir cette certification. Il y a des médias à travers des agences de presse ou même des journalistes eux-mêmes directement. Il y a tout le monde du divertissement d'ailleurs, qu'il soit institutionnel ou que ce soit des réelles personnes, je pense à des cinémas, des théâtres, etc. Il y a le monde du sport, bien sûr. Et puis, là où c'est un peu chaud, c'est il y a les activistes. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à définir. Ils le définissent comme des personnes influentes qui cherchent à informer le monde sur des causes socio-économiques, politiques et culturelles. Donc autant dire que cette catégorie-là, on sent déjà que ça risque d'être un petit peu la merde. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie volonté de Twitter de revenir avec ça. Ensuite, il y a des règles à respecter aussi. Il faut un profil rempli entièrement avec photo de profil, bio, bannière. Il faut avoir été connecté au moins une fois dans les 6 derniers mois. Donc il faut un compte qui est actif.
PCR négatif.
Non, pas encore, il ne demande pas ça. Il faut avoir une adresse mail ou un numéro de téléphone confirmé relié à son compte Twitter et il faut avoir un compte surtout qui n'a pas été verrouillé pour avoir enfreint les règles Twitter au cours des 6 derniers mois. Donc, certains comptes, et c'est ça qui est intéressant aussi, pourront ne plus être certifiés. C'est-à-dire que bah, je pense par exemple à nos amis les amoureux des animaux. Tu vois, par exemple, on en connaît une nous, au bureau qui a des comptes pour son chien. Et bah, un compte Twitter de son chien, même s'il devient très connu, ne pourra pas être certifié. Parce que les personnages fictifs ou les comptes d'animaux n'auront plus cette vérification, cette certification. Donc, c'est un choix de la marque. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on peut perdre sa certification une fois qu'on l'a déjà obtenue. C'est un gros changement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a eu une certification qu'on la garde ad vitam aeternam. Donc, par exemple, si vous mettez à changer votre nom sur Twitter, vous pouvez la perdre. Si vous usurpez l'identité de quelqu'un ou si vous respectez pas les règles de Twitter en publiant des tweets qui peuvent mener à une conduite un peu haineuse ou un comportement abusif ou une incitation à la haine, etc., etc., bah, vous pouvez perdre votre certification. Ça peut être une des punitions, entre guillemets, de Twitter. C'est de vous faire perdre cette certification. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que la possibilité d'enlever la certification, ça donne à Twitter un petit peu plus de poids et ça donne de l'importance à cette certification aussi. C'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça et puis qu'on garde après. Il faut faire attention. Quand on a cette certification, en fait, on a une responsabilité quand on prend la parole sur le réseau, je trouve. Et c'est ça qui est intéressant avec le fait de pouvoir l'enlever. En tout cas, voilà, ça devrait arriver ça au début de l'année 2021. Et puis, je trouve que de manière général, Twitter a toujours une grosse réflexion autour de la manière dont elle gère ce qui se passe sur sa plateforme. Elle a été aussi en proie à beaucoup de critiques et de polémiques par le passé autour de tout ça. Et on sent qu'aujourd'hui, bah, la plateforme, elle veut mieux réfléchir la manière dont elle modère le contenu et la manière dont elle donne de l'importance à certaines personnes sur sa plateforme.
Ok, voilà. On va suivre ça de près dès janvier. Allez, moi, je vais finir avec Instagram. Instagram qui annonce des nouveautés concernant le contenu publicitaire et notamment les publicités, les branded content ads. Je ne sais pas si tu te souviens ce que c'est exactement, les branded content ads. Ce sont ces publicités de contenu de marque, notamment qui relient en fait un compte influenceur, un compte privé, avec un compte d'annonceur, un compte de marque et qui permettent d'avoir ces petites mentions que vous avez déjà vues en haut d'un poste, une publication sponsorisée ou en partenariat oui. avec telle marque. Voilà, ça, c'est des branded content ads et Instagram, du coup, annonce des nouveautés, notamment le fait de permettre aux marques de créer des publicités directement sur le compte des influenceurs. C'est assez étonnant ce que propose Facebook, Instagram. Hein, les branded content ads, elles ont été lancées l'année dernière pour permettre aux influenceurs eh bien, d'identifier leurs publications quand elles sont sponsorisées par une marque. Et alors voilà, ça ressemble à des publications organiques de base, hein, avec ce fameux partenariat payant avec, etc. Et la mise en œuvre aujourd'hui de ce type de publicité, c'était jusqu'à présent plutôt fastidieux et un peu contraignant. Hein. Le contenu devait d'abord être obligatoirement publié en tant que publication organique par l'influenceur. Puis la marque passait par Instagram pour promouvoir la publication en tant que publicité. Donc, il y avait besoin d'abord de publier en organique et ensuite la marque pouvait mettre des billes en publicitaire pour booster ce contenu-là. Instagram lance du coup un nouveau processus où les annonceurs, eh bien, ils peuvent publier des publicités de contenu de marque sans que les influenceurs aient besoin de créer d'abord une publication organique. Donc, en gros, on peut faire maintenant des dark posts, hein, ce qu'on appelle des dark posts, des posts qui n'apparaissent dans aucun feed, exclusivement publicitaires, qui sont des branded content ads. Hein. Donc, avec cette nouvelle fonctionnalité, les marques, elles pourront créer une annonce avec le propre compte, avec le compte du créateur, hein, de l'influenceur avec lequel elles travaillent. Et même publié au nom de l'influenceur en question sans que celui-ci ait à le faire. Hein. Bon, évidemment, il y a un principe d'approbation par l'influenceur ou l'influenceuse, mais c'est assez étonnant. Vraiment, on est dans un truc qui est poussé, un curseur qui est poussé jusqu'au bout, dans lequel un influenceur finit par louer hein, ou à vendre momentanément son audience, l'accès à son audience par une marque, puisque ce n'est même plus lui qui publie le contenu est publié directement par la marque elle-même.
Ouais, je trouve ça presque dommage parce que dans après effectivement c'est peut-être un petit gain de temps etc mais je trouve ça presque dommage dans ce que ça représente le fait que ce soit plus l'influenceur lui-même le créateur qui crée son contenu et qui le poste là ça fait vraiment bon bah voilà on vient de louer un espace publicitaire sur ton compte et on poste dessus et puis voilà quoi.
Ouais, alors évidemment, ça c'est si on prend les choses à l'aune avec un prisme qui est influenceuse-influenceur, mais pensons aussi à tous ces comptes mèmes, à tous ces comptes de contenu qui sont pas forcément incarnés par un influenceur ou une influenceuse, mais qui ont des audiences monumentales à monétiser. Ben là, forcément, hein, on voit bien ce qui va se produire. Hein, ouais. Tel compte de mème, tel compte de contenu, tel compte de média va pouvoir tout simplement louer son espace et juste se contenter d'approuver hein, les contenus de marque qui lui seront soumis.
Exactement, intéressant. En tout cas, ça va peut-être changer quelques petites choses et on va peut-être voir plus de posts comme ça, puisque jusqu'à aujourd'hui, on voyait aussi des influenceurs réticents à vouloir utiliser cette notification en haut de leur post en collaboration avec telle marque. Peut-être que ça va changer quelques petites choses.
C'est fort possible. Les amis, c'était tout pour ce lundi. On espère que tout ça vous a plu. Venez en discuter avec nous sur les réseaux sociaux @supernatif.
sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok ou même Pinterest. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire. Ça nous fait super plaisir et en parler surtout autour de vous.
Merci à vous
tous.
Ciao. Et dès demain. Salut à tous. Ciao.